Bonjour et bienvenue dans Europe & Roll, l'émission réalisée par des jeunes européens pour des jeunes européens. Aujourd'hui, parlons musique. Nous nous sommes rendus pour vous dans un village de Côte-Nord belge à la recherche de spécialistes des musiques actuelles. Et aussi, actualité oblige, nous ferons le point sur les journées européennes du patrimoine. Parce qu'elles sont européennes, eh oui. Mais avant de parler musique, on démarre comme d'habitude en vous livrant l'actualité des quatre coins de l'Europe. Sarkozy-Merkel, des tensions dans le couple franco-allemand. Plusieurs journaux de part et d'autre du Rhin ont rapporté des tensions dans le couple franco-allemand après le dernier sommet de Meseberg le 10 septembre dernier. Officiellement, tout va bien, mais en coulisses, Berlin reconnaît des agacements relatifs à la personnalité et à certaines décisions de Nicolas Sarkozy. Ainsi, il a été mal accepté en Allemagne que le président français s'approprie le succès de la négociation sur le traité simplifié en juin dernier. Plus récemment, Nicolas Sarkozy s'est prononcé en faveur de la candidature de Dominique Strauss-Kahn au poste de directeur du FMI sans en discuter avec Berlin. Des désaccords ont aussi parsemé les négociations sur la direction de ADS. À Paris, on murmure que Nicolas Sarkozy n'a pas apprécié qu'Angela Merkel ne désavoue pas publiquement son ministre des Finances. Ce dernier avait en effet eu un accrochage verbal avec le président français lors d'un conseil des ministres de l'Union européenne. Si ces tensions ne semblent pas remettre en cause en profondeur la bonne marche du couple franco-allemand, elles témoignent d'un changement dans les relations Paris-Berlin depuis l'arrivée de Nicolas Sarkozy au pouvoir. Russie, démission du Premier ministre. Le Premier ministre russe Mikhail Fratkov a démissionné de son poste mercredi 12 septembre. Il a dit vouloir laisser une liberté totale au président Vladimir Poutine dans ses décisions, notamment pour les nominations. Cette démission intervient à 3 mois des élections législatives et à 6 mois de la prochaine élection présidentielle. Le lendemain de cette annonce, Vladimir Poutine a nommé Viktor Zubkov, très peu connu sur la scène politique, au poste vacant. En Russie, le changement de premier ministre à quelques mois des élections est chose courante. En 1999, le président Boris Yeltsin avait nommé Vladimir Poutine quelques mois seulement avant que celui-ci ne devienne président. Il s'agit ici pour Vladimir Poutine de désigner en quelque sorte son successeur, étant donné que lui-même ne pourra pas se représenter en 2008. Le nouveau premier ministre Viktor Zubkov a d'ailleurs d'ores et déjà annoncé qu'il n'excluait pas une prochaine candidature à la présidentielle. Union européenne, le financement en débat. Le président de la Commission européenne José Manuel Barroso a lancé mercredi 12 septembre le débat sur le financement de l'Union européenne après 2013. Le financement pour la période 2007-2013 avait été réglé en 2005 au prix d'âpres négociations, notamment à propos de la politique agricole commune chère à la France et à propos de la remise accordée depuis 1984 au Royaume-Uni. Tony Blair avait alors accepté une baisse de ce rabais ainsi qu'une remise à plat de la PAC dès 2008. Le nouveau Premier ministre britannique Gordon Brown est cependant plus attaché à ce rabais qui est accordé à sa nation et s'avère être un farouche opposant à la PAC. Du côté français, Nicolas Sarkozy semble moins rigide à ce sujet que son prédécesseur Jacques Chirac. Cependant, ces négociations prochaines s'annoncent difficiles à mener. Et on commence tout de suite notre programmation musicale en l'honneur de notre graphiste italien Luigi. On passe tout de suite sous Sonica avec Tutti Mi Sbagli.
Posso dirmi Sveiki.
Mazdare.
Europe & Roll, toute l'actualité des jeunes européens sur Fadjet. Cette semaine dans la grande région, l'actualité de tout étudiant rock'n'roll et européen qui se respecte, c'était ça.
Messieurs, en vos grades et qualités, j'ai l'honneur de déclarer ouverte cette journée Eros Tour. C'est aujourd'hui le lancement de ce merveilleux projet. Nous nous trouvons ici dans un site tout à fait insolite, tout en conteneur, un espace tout en conteneur, l'âge d'or de la sidérurgie luxembourgeoise, pour ne pas entretenir une nostalgie stérile, mais pour s'appuyer sur le passé, afin de mieux appréhender le présent, de vivre le présent, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui dans la joie de cet événement musical, et surtout préparer l'avenir. Il y a sur ce site non seulement ce théâtre qui accueille des événements musicaux, qui accueille également de superbes pièces de théâtre, mais il y a aussi un grand événement d'art plastique, d'art visuel, dans les conteneurs qui sont situés derrière le théâtre.
L'équipe d'Europe & Roll s'est immiscée dans l'Eros Tour, ce festival européen de musique. Pour en savoir plus, écoutez Jean-Pierre Minella, directeur de l'ADAM 54, au micro de Maxime.
Donc je voulais savoir d'abord, qu'est-ce que c'est que Eros ?
C'est un projet qui a débuté il y a 3 ans, l'idée étant de faire un travail sur les musiques actuelles qui dépassent simplement donc ce que faisaient un certain nombre de départements français, c'était le cas de la Meurthe-et-Moselle. Donc c'est l'ADAM Meurthe-et-Moselle qui a lancé ce projet, donc avec des contacts, avec bien sûr nos voisins vosgiens et mosellans pour la France, mais aussi avec le Luxembourg et la région wallonne. L'idée est de faire en sorte que ces pays qui sont très très proches, mais finalement d'un point de vue culturel, de permettre que des artistes se produisent sur l'ensemble de ces territoires, qu'il y ait donc une confrontation et que l'on puisse marquer, prendre date et marquer dans le temps le fait de pouvoir produire des artistes de qualité sur l'ensemble de ces territoires, d'échanger nos expériences, de faire se confronter les esthétiques et faire qu'au-delà de la reconnaissance même des esthétiques des musiques actuelles, il y ait donc un développement culturel qui puisse être concerté, de vraies confrontations intéressantes sur l'ensemble de la grande région. On parle souvent de la construction européenne, Bruxelles, à Strasbourg ou ailleurs, et on s'aperçoit que sur le territoire, dans des pays qui sont très très proches, parfois il y a des problèmes relatifs qui peuvent paraître simples mais qui sont parfois rédhibitoires pour un vrai travail en commun. Donc on travaille sur les problèmes de législation, comment on peut se produire à l'étranger, quels sont les circuits, comment trouver des dates pour les différents groupes et les différentes esthétiques. Voilà, tout simplement faire en sorte qu'il y ait un développement culturel sur l'ensemble de la grande région, qu'il puisse y avoir en plus un travail qualitatif, donc vous avez des jurys de formation, faire connaître des artistes lorrains, luxembourgeois, belge, demain sarrois. Et je crois que ça a été dit tout à l'heure par un de mes collègues, la culture par nature a une dimension anthropologique, elle s'arrête pas aux frontières, mais force était de constater que malgré la proximité et le voisinage, c'était pas aussi simple d'aller se produire en Belgique, au Luxembourg, en France ou en Sarre. Pour ce que je viens de dire, les législations sont pas les mêmes, les traditions sont différentes. Ce système Eros qui a été donc mis en place il y a 3 ans a aujourd'hui trouvé une vraie dimension. Ce que l'on souhaite, c'est ne pas se satisfaire de cela, c'est pérenniser, élargir, voir avec nos voisins allemands, faire en sorte que cette Europe de la culture se construise réellement. Et pas simplement dans les ministères, mais aussi territorialement. Ceux qui ont construit l'Europe dans ces bassins, je le rappelais tout à l'heure, parce que on est sur l'ancienne usine sidérurgique qui a vu converger des gens de toutes origines qui sont venus travailler dans l'industrie. Cette Europe, elle s'était déjà constituée avant les règles européennes. Moi, je suis dans une ville où la moitié de la population est d'origine italienne, un tiers polonaise, le reste sont des maghrébins, et il y a quelques 8 ou 10 Français de souche. Et c'est ce qui a constitué la culture dans ce bassin, cette diversité, ce creuset, que l'on puisse avoir fait ça dans nos propres territoires et pas pouvoir communiquer avec nos voisins belges ou luxembourgeois. Voilà, le pas a été franchi, et je pense que ça a pris une vraie dimension. Et je le répète, la culture est par nature, n'a pas de frontières, encore faut-il qu'on puisse se rencontrer, qu'on puisse échanger la musique. Il y a 20 ans, qui pensait qu'il y avait un tel métissage des musiques, qu'on allait utiliser des musiques de la planète entière, alors qu'avant elles étaient très sérielles et représentaient vraiment des lieux particuliers. Je pense qu'on est dans un monde en mouvement. La mondialisation a des effets catastrophiques. Quand les États ne régulent pas et ne protègent pas les gens, elle peut avoir des effets particulièrement bénéfiques quand ce sont des rencontres de ce type qui font que les gens se connaissent mieux, apprennent à s'apprécier, On a toujours peur de celui qui ne se ressemble pas, sauf quand on le connaît.
Aujourd'hui, c'est le premier jour, donc c'est la journée inaugurale. C'était difficile en amont de monter un tel projet.
C'est la journée inaugurale pour Eros 2007. Mais ça a été un peu plus compliqué au départ, je l'ai cité tout à l'heure, il a fallu multiplier les réunions, il a fallu faire en sorte que tous ces acteurs puissent se retrouver, l'idée n'étant pas de faire un coup, de faire sur une année quelque chose qui fonctionnait, et là, non, on est à la troisième année, alors on a certainement un problème de croissance, c'est pour ça qu'on a tous lancé un appel à se retrouver très vite après cette troisième édition pour envisager une quatrième édition plus large et pour vraiment pérenniser cet espace au niveau européen et l'élargir.
Quand vous dites plus large, vous pensez à qui en particulier ?
Je pense à la SAR, mais quand on parle de culture, il est difficile de parler de voisins. La culture, elle a une dimension universelle. Je dis plus large pour regrouper encore plus de groupes, une meilleure qualité, une meilleure connaissance de ces groupes, les accompagner dans leur reconnaissance par le public, sur les circuits professionnels pour ceux qui le souhaitent. Alors, tous ces outils-là existent en partie déjà d'un point de vue territorial et local. Faire en sorte que ce réseau puisse avoir se passer les frontières, c'est bien sûr quelque chose d'important. Mais quand je dis élargir, c'est pas la culture elle n'a pas à être élargie, elle a à être, c'est tout, elle a rencontré l'ensemble des idées qui touchent cette toute petite planète.
Sinon, quel premier bilan on peut faire par rapport à Eros au bout de la troisième saison? Des aspects positifs, mais aussi des aspects négatifs, vos regrets?
On n'a pas de regrets particuliers, c'est une opération qui fonctionne, qui s'est développée. Ça a été dit par le représentant du conseil régional. Ils n'étaient pas associés au départ. Ils y sont. Nous, on essaye d'encore plus fédérer. Alors, on pourrait toujours dire que ça aurait pu aller plus vite, plus large, convaincre plus rapidement. On essaye toujours, en tout cas, moi qui ai la responsabilité de la culture depuis pas loin de 10 ans au conseil général, de convaincre que la place de la culture sur un territoire, une région, sur les pays, c'est une place essentielle parce qu'elle est au cœur du développement des territoires et du développement humain.
C'est qui ? Europe & Roll, toute l'actualité des jeunes européens sur Fadjet. On continue notre périple au milieu du village de conteneurs belges. Europe & Roll est tombé sur le sociologue François Ribac, auteur de La Valeur de Rock, pour nous parler des musiques actuelles.
Dès le début, vous nous avez dit que la musique actuelle, ça n'existait pas. Pourquoi d'après vous ?
Parce que personne parle de ça, sauf les institutionnels. On devrait parler, je pense, plutôt des styles musicaux dans lesquels les gens se reconnaissent. Et à ce moment-là, on pourrait parler, par exemple, du rock, du hip-hop et de la techno, de ces trois grandes galaxies. Et à ce moment-là, on arriverait effectivement non seulement à décrire des choses communes, mais aussi à comprendre des différences, et donc à éviter de produire des dispositifs qui sont conçus d'une façon trop unilatérale.
Donc vous préférez parler de musique populaire ? Et vous nous dites que c'est la standardisation qui permet la création. C'est un peu paradoxal, c'est un peu nouveau comme idée. Est-ce que vous pouvez un peu développer ?
Ça, c'est une idée qui est la base même de l'objectivité scientifique. Dans un laboratoire scientifique, il faut avoir des procédures standardisées. Ça permet de reproduire une expérience en disant qu'elle est valide. Donc le langage, un disque, une musique diffusée à grands exemplaires, etc. C'est exactement ça. C'est un standard, aussi bien dans l'objet dans lequel la musique est, la façon dont elle est produite ou les trucs qui permettent de l'écouter, qui permettent après aux gens de se positionner, de partager leurs goûts ou leurs dégoûts. Quand tout le monde va voir un film qui est produit dans des studios avec les mêmes caméras, avec des métiers qui sont les mêmes, avec des façons de faire qui sont identiques, personne fait le même film et tout le monde débat du même film et ça donne un cadre commun qui va dire que ceux qui l'aiment pas vont inventer autre chose. Il faut avoir un standard pour individualiser ou critiquer quelque chose.
À l'image des Beatles, par exemple.
L'exemple des Beatles, c'est pour donner là plutôt l'exemple de gens qui imitent un genre, les rock'n'roll américains, donc qui viennent pas d'Angleterre, et qui, à partir de ça, vont produire un autre genre, la rock music. Donc là, on voit que des gens qui ont singé d'autres sont devenus des créateurs. Donc ce paradoxe-là est très important. C'est en imitant quelque chose qu'on apprend le vocabulaire qu'il y a derrière, plus largement, et qu'en même temps, on apprend à se différencier, parce qu'on comprend très vite que soi-même, on n'est pas Elvis Presley.
Et si on parle d'Europe, par exemple, est-ce qu'on peut distinguer une musique populaire plutôt type européenne et anglo-saxonne ? Est-ce qu'on peut faire cette différence ?
La nature même des supports, depuis l'invention du phonographe, fait que, au contraire, un support est pas essentiellement national ou anglo-saxon. Et anglo-saxon, c'est une notion vraiment très bizarre, en fait. Faut vraiment rien connaître à ça pour penser qu'un anglais et un américain, c'est pareil. Mais à tout point de vue, juridique, technique, la langue, la façon de vivre. Donc tout ça pour dire donc que les répertoires circulent et que les gens, quand ils s'approprient des répertoires, ils vont en faire autre chose. Je veux dire, les Fabulous Troubadours, ou NTM ou MC Solar, c'est certainement pas du rap américain.
Et si on se projette un peu dans le futur, quel avenir pour les musiques populaires ?
J'en sais rien. Le principe même des activités humaines, et ça va beaucoup plus pour la musique populaire peut-être que pour les autres, parce que justement elle est moins stabilisée, standardisée que des choses comme par exemple le bebop, le jazz ou la musique classique. Ce qui transmet la musique populaire, c'est les disques. Toute l'histoire de la musique populaire, c'est des choses imprévues. C'est de transformer une platine disque pour écouter de la musique en instrument pour faire du rap, du scratch. Par contre, ce qui est évident, c'est qu'avec la numérisation, les supports durent beaucoup plus qu'à l'époque du vinyle et beaucoup plus qu'à une radio. Là, tout reste, donc tout est diffusé, tout circule. L'Internet accentue encore ça. On peut pas savoir ce que ça deviendra. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, comme les répertoires enregistrés restent, alors les amateurs de musique mélangent des styles dont le mélange aurait paru complètement improbable. Qu'on a du rap folk, qu'on a du hip-hop féminin, c'est-à-dire qu'on a des tas de choses que quelqu'un à qui on l'a fait pas aurait pensé que c'était pas possible.
Côté musique, on reste dans le sud avec Revolta 21, Las Madres de la Playa de Mayo.
Derechos humanos de Argentina, militantes revolucionarias sin perder la esperanza de conseguir justicia. Sois vosotras luchando día y noche, las madres de la Plaza de Mayo, corazones armados de lucha y resistencia, corazones armados de lucha y resistencia. Solidario para todos los pueblos.
¿Qué queremos en el año 2000?
Acabar con los que nos van destruyendo.
¿Qué queremos en el año 2000?
Amor solidario para todos los pueblos.
¿Qué queremos en el año 2000?
Y acabar con los que nos van destruyendo. Sois vosotras luchando día y noche, las madres de la Plaza de Mayo, corazones armados de lucha y resistencia, corazones armados de lucha y resistencia. Pensar, organizar, luchar, vivir. Pensar, organizar, luchar, vivir. Pensar, organizar, luchar, vivir. Pensar, organizar, luchar y vivir. Ese gran pájaro rojo que tú bien defines, jefe de Bonafini, aletea en el cielo tocando la esa figura de Che. Y a nuestros amadísimos hijos guerrilleros revolucionarios que luchan y luchan, que luchan y luchan, que luchan y luchan por la libertad.
L'actualité de ce week-end, en France et partout en Europe, c'est aussi les journées du patrimoine. Saviez-vous qu'elles étaient européennes ? Explication par Ole.
Ce week-end, les 15 et 16 septembre, les musées, monuments et sites normalement fermés au grand public lui seront ouverts pour les Journées européennes du patrimoine. La journée Portes ouvertes des monuments historiques, en 1984, était une initiative exclusivement hexagonale. Le Conseil européen et le Conseil de l'Europe ont adopté l'idée. Elle est devenue un événement dans 48 pays. 800 millions d'Européens peuvent visiter plus de 30 000 sites. Un volet fort de cette action consiste à permettre l'accès à des sites normalement interdits. Ainsi, des rendez-vous insolites vous sont offerts. Exemple à Nancy, la FIA SIC installée sur la place Maginot vous fait pénétrer dans sa salle des coffres, sans risque de déclencher l'alarme. Une occasion rêvée pour préparer son prochain casse. Des trésors d'un autre genre seront à visiter aux Açores. Plonger dans le patrimoine prend ici un sens littéral. Découvrez sous l'eau les galions espagnols échoués autour des îles. Pendant 200 ans, à partir du XVIe siècle, les Açores ont été une plaque tournante pour des expéditions de découverte et de commerce, avec les Amériques, l'Afrique et les Indes. Les Portugais, les Espagnols et plus tard les pirates hollandais, anglais et français passaient par ici, ce qui fait que quelques 900 épaves sont soupçonnées d'avoir sombré dans les eaux. Les journées européennes du patrimoine rappellent aussi l'enjeu de la préservation et de la valorisation du patrimoine ainsi que tous les métiers annexes. Qu'il s'agisse de galions ou de trains à vapeur aujourd'hui disparus des rails, les efforts et les fonds nécessaires à la préservation du patrimoine et donc de la mémoire sont considérables. Prenons l'exemple de l'Adler ou l'Aigle, premier train à vapeur allemand construit par George Stephenson, ingénieur anglais et mythique père du rail. La reconstruction de ce train en 2006 nécessite la fonte d'un axe de plus de 200 kg. véritable défi même pour les ingénieurs d'aujourd'hui. Ainsi se pose la question du patrimoine technique et du savoir-faire. Le patrimoine, ce ne sont pas seulement les musées et les statues. Qui pourrait nier que l'histoire de la Lorraine et de la grande région Sarre-Lorlux est profondément marquée par la sidérurgie et ses vestiges? À côté du matériel, il est bon de rappeler l'Iliel. Retournons pour cela en France, plus précisément à Sichazel en Moselle. La maison de Robert Schumann présente l'exposition intitulée « Caricature d'Europe, trois siècles d'histoire à travers les dessins de presse ». Vous pourrez y voir, à travers des dessins humoristiques et satiriques de toute l'Europe, comment les mentalités évoluent, le regard sur les voisins change, et comment toutes les aventures, toutes les bêtises et toutes les tragédies de ce vieux continent depuis la Révolution ont inspiré des dessins amusés ou acerbes. Rendez-vous les 15 et 16 septembre à la maison de Robert Schumann, à Sichazel, de 10h à 12h et de 14h à 18h. Ces regards croisés sur une histoire commune peuvent amener à se demander quand les journées européennes du patrimoine s'accompagneront d'une journée du patrimoine européen. L'existence effective d'un patrimoine européen partagé semble bel et bien confirmée par la création du label Patrimoine européen. En France, trois sites ont obtenu le label Patrimoine européen. L'abbaye de Cluny, la maison de Robert Schumann et la cour des papes à Avignon. Cependant, une étude Ipsos de mars 2007 souligne qu'il faudrait déjà se mettre d'accord sur ce que c'est que le patrimoine. Allemands, français, italiens, finlandais et hongrois donnaient des réponses assez différentes à la question « Quels domaines définissent selon vous votre patrimoine national ?» L'architecture, les monuments, la musique, la littérature, le cinéma ou les traditions. Vient ensuite la question du patrimoine européen. Addition, superposition ou intégration des patrimoines nationaux? Le constat est confortant. L'étude montre que, dans les 5 pays, on est majoritairement convaincu que l'intégration européenne des patrimoines est bien entamée, mais qu'elle ne veut pas dire effacement de la culture nationale, crainte qu'on entend plus souvent dans le domaine social ou économique. On prête à Jean Monnet d'avoir dit que, s'il devait recommencer l'aventure européenne, il commencerait par la culture.
On continue avec un groupe des Pays-Bas. Ça s'appelle Indestad van Narcos.
Dokter, 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 ik zie vlekken op de zon. Ik zweefde over steden, maar nu lig ik hier neergesmakt op het beton. Camera die is overbelicht, iedereen lacht, wat was de grap? En toch blijft er altijd iemand liggen in de cirkel. Wordt uitgekeerd. Het publiek applaudisseert. Alles is zo mooi, alleen wat verder weg. Ik zie nog wel wat wazig en ik weet niet wat ik zeg. Morgen nog misschien wat later koop ik een fakkel en een kruis. Daarmee loop ik over nat gesneeuwde straten en s'avonds ga ik weer naar huis. Maar rotte god, er is geen bewijs. Kijk wat er staat dag in dag uit. Je shake en je boy is te klein. Wordt door de lampen verblind, man. Neem me godverdomme geen kind dan.
Ik weet even niet meer zo gauw. Wat ik zei maar, alles is gewoon. Ik ben nog steeds verdoofd. Ik heb nog steeds de tune van de Power Rangers in mijn hoofd.
Morgen nog wat later ga ik naar de dode zee, waar de dode meeuwen zingen. Ik neem een Fender mee.
L'un des thèmes des journées du patrimoine de cette année est Vauban. La Commission européenne propose d'ailleurs une exposition qui lui est dédiée. Mais en quoi Vauban est-il européen?
Les journées européennes du patrimoine, ce week-end des 15 et 16 septembre, sont aussi l'occasion de rappeler la dimension européenne de l'ingénieur Vauban, mort il y a 300 ans. Sébastien Vauban était avant tout ingénieur et architecte militaire du Roi Soleil. En parfait spécialiste de la poliorcétique, c'est-à-dire de la science du siège militaire, il dota la France de Louis XIV d'une ceinture de citadelles. Aujourd'hui encore, on connaît et on visite les fameux forts Vauban, mais il disposait aussi d'autres talents. Il était économiste, urbaniste et militaire. En quoi donc Vauban était-il européen avant l'heure? Il a parcouru au cours de sa vie environ 180 000 km en France et dans les pays voisins. Il connaissait les maux dont il souffrait et imaginait des solutions. Il proposait des réformes économiques, fiscales et agronomiques. Il voulait montrer qu'il était possible de remédier aux injustices sociales dominantes et surtout à la sous-nutrition d'une grande partie de la population. Son expérience des guerres l'amène à imaginer des projets à l'apparence anachronique, comme une paix durable pour l'Europe, une monnaie unique pour les États de la chrétienté. Luxembourg, Maastricht et Fribourg-en-Briscoe sont parmi les sites qui ont connu l'influence de l'ingénieur de Louis XIV. Aujourd'hui encore, le lien Vauban est fort. Il relie des villes aussi différentes que Luxembourg, Saarlouis en Allemagne, Sibiu en Roumanie et Longwy en Meurthe-et-Moselle. La compagnie Carabosse a conçu un spectacle pyrotechnique qui aura voyagé pendant toute l'année 2007 entre ces différentes villes. Le 15 septembre, la tournée s'achève à Marsal, en Moselle, à environ 35 km de Nancy. Un petit détour par la Roumanie nous permettra de mieux comprendre les liens entre ces territoires de l'Europe. Ancienne capitale de la Transylvanie austro-hongroise, Sibiu est cette année la capitale européenne de la culture avec la ville de Luxembourg. Curieuse coïncidence, car les pères fondateurs saxons de Sibiu étaient originaires du territoire actuel du Grand-Duché de Luxembourg. Sibiu a été